Bonjour à tous, bonjour à toutes, comme tous les vendredis, on se retrouve pour le rendez-vous de la semaine pour le commentaire de la paracha par Avraham Haroldaï, grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous chaque vendredi, sauf vendredi prochain.
Sauf vendredi prochain, effectivement, il faut un peu souffler de temps en temps. Voilà. J'aurais bien aimé être avec vous. Ça va être un petit peu compliqué d'enregistrer à distance.
Voilà, on aura en tout cas, on en parlera à la fin de l'émission. Cette semaine, nous lirons la paracha.
Mais vous n'en direz pas trop, j'espère.
Non, cette semaine, nous lirons la paracha de Tetzavé. L'entrée de ce Shabbat, ce sera à partir de 17h44. Et la fin du Shabbat demain à partir de 18h51. Ces horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Et comme chaque semaine, on souhaite un refouage chez les mains à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Nous pensons à vous chaque semaine quand on commence cette émission. Et on voulait, si vous permettez, monsieur le grand rabbin, dédier cette émission pour l'élévation de l'âme de Monique Azerad, qui est la sœur de notre amie Corinne Azerad. Et nous présentons à sa famille nos condoléances et à toute la famille Azerad pour ce départ de Monique Azerad. Monsieur le grand rabbin, on va parler un peu d'actualité. Vous êtes allé la semaine dernière visiter les entreprises Heumann, c'est ça ?
Heumann.
Heumann, autant pour moi. C'est ceux qui fabriquent les matzot, pas encore tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas ?
Alors déjà, j'y vais régulièrement. Il y avait une visite particulière puisque le grand rabbin de France est venu visiter pour la première fois. D'ailleurs, pour la première fois, au dire de la directrice générale Isabelle Heumann, pour la première fois de l'histoire, en tant que grand rabbin de France, on n'avait pas eu, depuis l'ouverture de cette magnifique usine de matzot,
qui a 120 ans. Qui vend dans toute la France. Hein.
Voilà, qui a plus de 120 ans. Et donc, c'était la première fois qu'il y avait la visite officielle d'un grand rabbin de France. Mais j'ai la chance de pouvoir me rendre régulièrement dans cette entreprise. Premièrement, parce que j'aime bien aller à Soultz. C'est un endroit très convivial. On est toujours très bien reçu. Et surtout, le monde des matzot, c'est un monde particulièrement exceptionnel. J'y vais bien sûr aussi pour m'assurer que tout va bien, même si, vous l'avez bien compris, on a une très belle équipe de cache-route. Et j'ai donc la chance d'avoir des surveillants généraux qui se rendent eux-mêmes très régulièrement dans cette usine, dans laquelle, je le redis, il y a, en plus de ces surveillants généraux, un surveillant permanent qui est là pour superviser la totalité de la production depuis 6h du matin jusqu'à...
Une question toute simple. Les matzot qu'on vend à Pessah, c'est une fournée spéciale ou alors elle est faite dans l'année
Alors, il y a différents types de matzot qui sont produites par les établissements Heumann. Je ne parle pas des farines utilisées, que ce soit du blé complet ou autre, ou même des matzot où on va utiliser d'autres céréales. Je parle tout simplement de la qualité de surveillance et de l'intention qu'on va mettre pour réaliser ces matzot. Donc on va avoir la production de matzot classique. Je ne vais pas être trop technique dans mon exposé. Mm-hmm. On a déjà eu l'occasion en plus de parler, il me semble, dans cette émission ou dans d'autres émissions en tout cas, de ces productions de matzot. Les matzot classiques sont des matzot réalisées avec une farine bien évidemment surveillée depuis la mouture. Donc, c'est une farine vraiment spéciale. C'est pas depuis la moisson. Hein. Là, je parle depuis la mouture. Ça, ce sont les matzot classiques. D'accord. Elles arrivent avec une farine kasher l'épaisseur, mais qui n'a pas été surveillée depuis la moisson, mais uniquement depuis la mouture, et qui arrive alors aujourd'hui dans des big bags qui sont scellés, bien sûr, par le rabbinat de Strasbourg. Donc, il faut comprendre, parce que les gens n'imaginent pas que cette surveillance est une surveillance qui est vraiment bien en amont. Ce n'est pas simplement une surveillance à l'usine. On arrive et puis on s'assure que tout se passe bien. Pas du tout. Il y a une surveillance, il y a une intervention de nos mashgichim, de nos surveillants, déjà depuis la fabrication de la farine jusqu'à l'acheminement de cette farine. Donc cette farine est acheminée par des camions. Alors on avait deux types, on avait les camions jusqu'à présent qui venaient, qui étaient eux-mêmes dont les conduits avaient été scellés. Et donc au moment où cette citerne arrivait de farine, elle était décellée par le mashgiach lui-même. Donc il s'assurait, donc il avait assisté au remplissage, au moulin. Et il avait scellé lui-même la citerne. Et au moment où la citerne va décharger pour tout simplement livrer cette farine dans le conduit qui va acheminer cette farine jusqu'à l'atelier, eh bien, ça, tout cela se fait dans des conditions, d'hygiène, mais aussi d'hygiène en matière de cache-route, c'est-à-dire d'une propreté absolue, pas de contamination avec d'autres farines. Et c'est la raison pour laquelle, en amont, il faut aussi cachériser. Sans oublier de le dire, j'ai oublié de le dire d'ailleurs.
Cachériser les matzot.
Même dans l'interview de Valérie, cette petite interview que Valérie m'avait faite sur place, on cachérise l'usine. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a une production, comme vous le savez, il y a production de matzot toute l'année. Oui. Les matzot qui sont produits toute l'année ne sont pas cachères les Pessahs. Elles ne sont pas réalisées dans des conditions cachères les Pessahs. Ce sont des matzot qui sont faites exactement avec les mêmes ingrédients. Alors aujourd'hui, il y a une déclinaison très importante de recettes et de produits chez les établissements Eumann, mais Eumann fabrique également tout au long de l'année des matzot classiques, c'est-à-dire une recette classique avec uniquement de la farine de blé et de l'eau, sans adjonction d'autres ingrédients, de sel ou d'épices, de poivre, de piment, etc. Et ces matzot-là, pour autant, même lorsqu'elles ne contiennent que de l'eau et de la farine, ne sont pas cachères les Pessahs, celles qui sont produites toute l'année. Tout simplement parce qu'on ne va pas faire attention aux mêmes règles qu'à Pessahs, on ne va pas nettoyer régulièrement de tout le Hametz la chaîne de production, on n'aura pas cachérisé au préalable, donc ces matzot-là sont faites dans des conditions qui rendent Hametz, par définition, ce pain azim. Donc ce sera du pain azim, il ressemble en tout point à de la matzah, aussi bien au niveau gustatif.
Donc il faut le dire, quand on achète des matzot pour Pessahs,
bien sûr, vous assurez que sur le paquet, il y est bien marqué « Kacher les Pessahs ». Alors, je vous rassure, toutes les matzot que vous trouverez dans les magasins Kacher, vérifiez quand même, mais portent en principe le logo du Beit Din de Strasbourg et c'est bien marqué « Kacher les Pessahs ». Voilà. Les matzot qui sont produites à l'année ne portent pas de logo de Kacheroute particulier. Il faut surtout pas, et mais c'est important, vous avez raison de le dire, Jean, si jamais quelqu'un avait acheté dans un commerce traditionnel un paquet de matzot des établissements Eumann sans logo de cacheroute du Beit Din de Strasbourg, c'est une production qui n'est pas cachère les Pessahs, et même si cette matzah ressemble en tout point à la matzah cachère les Pessahs, elle n'est surtout pas à utiliser pour Pessahs.
Il faut que ce soit marqué.
Il faut que ce soit marqué cachère les Pessahs. Et donc, je vous disais plusieurs types de matzot, les matzot traditionnels, les matzot 18 minutes, où il y a, on va dire, un nettoyage un peu plus fréquent et de toute la chaîne de production, toutes les 18 minutes, très yesodi, très méticuleux, on va dire. Et il y a les matzot shmurot, que l'on préconise et qui sont absolument à utiliser pour le soir du Seder. Alors, bien sûr, de préférence, on utilisera des matzot faites à la main, que vous pouvez aussi trouver dans le commerce. Mais pour ceux qui ne pourraient pas utiliser des matzot faites à la main, utilisez au moins des matzot machines.
C'est les bleus.
Des matzot machines, alors je ne sais plus dans quel bonheur, elles n'arrivent même pas forcément dans des boîtes bleues. Aujourd'hui, non, pas du tout. C'est marqué matzot shmurot, on le reconnaît bien sur la boîte. D'accord. Et ces matzot shmurot, elles, Jean, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elles ont une particularité, c'est que la farine qui est utilisée est une farine qui a été donc spécialement préparée pour Pessahs et surveillée depuis la moisson. C'est-à-dire que même au niveau de la moisson, on va moissonner ce blé, les Shem Mitzvah, dans l'objectif de fabriquer les matzot de la mitzvah du soir du Seder, et on assure une surveillance depuis la moisson. On va réaliser cette moisson dans des conditions optimales, c'est-à-dire sans aucune humidité. On s'assure qu'il n'a pas plu depuis 3 jours. On va s'assurer que donc ce blé va être transporté correctement jusqu'au moulin, etc. Et donc il y a une surveillance depuis le début jusqu'à la fin, et tout au long du processus de fabrication de ces matzot sont fabriqués, les Shem Mitzvah, donc dans l'objectif d'être réalisé et d'être confectionné pour s'acquitter tout simplement de la mitzvah de manger de la matzah le soir du Seder.
On reviendra évidemment sur la route de Pessahs un peu plus tard dans l'année sur Radio Judaïque à Strasbourg. On aura évidemment des rabbanim.
Mais vous avez eu raison d'en parler parce que là aussi, on l'a répété, les gens s'imaginent que les matzot, on commence à les fabriquer 1 ou 2 semaines avant Pessahs. Oui, ça serait bien si on avait simplement 10 ou 15 ou 20 familles à fournir. Vous le savez, ces matzot, elles sont achetées par des milliers de personnes et donc ça a commencé déjà depuis un mois. On commence très très tôt. La production de matzot commence, alors en fonction bien sûr du début de la fête de Pessahs. Cette année, Pessahs commence très tard, commence fin avril, donc on a commencé un peu plus tard que les années précédentes, mais grosso modo, on commence au moins 3 bons mois avant le début de Pessahs, la production de ces matzot. En Israël, on commence 6-8 mois même avant Pessahs.
On revient à la paracha de la semaine, Tetzavé, avec un résumé très court. Pour une paracha très technique.
Alors, une paracha très technique qui s'inscrit dans la continuité de la paracha de la semaine dernière. Nous l'avions dit, nous sommes rentrés avec la paracha Terouma que nous avons lue Shabbat dernier dans une série de 5 sidrot donc jusqu'à la fin de ce Sefer Shemot, de ce deuxième livre de la Torah, intégralement consacré au Mishkan, au tabernacle, à la construction de ce tabernacle, aux ustensiles qui le composent, mais également à tout ce qui concerne le service à l'intérieur de ce tabernacle, service effectué par les Kohanim, par les prêtres, qui eux-mêmes devaient revêtir des vêtements spéciaux. Donc la paracha de Terouma que nous avons lu la semaine dernière était consacrée à la construction du Mishkan, aux différents éléments constitutifs de ce Mishkan, de ce tabernacle. La paracha de cette semaine, vous savez, vous voyez, c'est vraiment très très ordonné, c'est fait de manière très méthodique et très méticuleuse. La paracha de cette semaine de Tetzavé sera en grande partie consacrée à la confection des vêtements particuliers, des Kohanim, bien sûr, on va y revenir, des vêtements absolument magnifiques, hein, on va le voir, et qui avaient bien sûr chacun une symbolique tout à fait particulière, et on parlera dans une deuxième partie de la paracha également, déjà des corbanotes. Les sacrifices, et donc il y a une logique, hein, bien sûr, à parler de ces sacrifices, tout simplement parce que à partir du moment où on a parlé des vêtements et qu'on a parlé des prêtres, eh bien, dans un deuxième temps, il est important de parler de la fonction qui était la leur, ces vêtements. C'était des vêtements qui devaient être utilisés dans certaines circonstances, et en l'occurrence, ici, dans l'exercice de leur mission, qui consistait principalement donc à porter ces corbanotes, ces sacrifices. Et la seule particularité, on va dire, de cette parashat Tetzavé, c'est qu'à la fin de la parashat Tetzavé, on nous parle de la construction du Mizbeach HaZahav. C'est l'autel d'or, c'est qu'il y avait deux autels, un grand autel, grand par sa dimension, avec une grande rampe, hein. Vous avez tous cette image de cet autel sur lequel on accède par une rampe, et qui était donc le grand autel de cuivre, le Mizbeach HaNechoshet, qui se trouvait lui à l'extérieur donc du Echal, tout à fait, du Kodesh. Et donc ce Mizbeach, eh bien, on nous a parlé de sa construction comme tous les autres ustensiles dans la paracha de la semaine dernière. Et il y a une exception, il y a un ustensile qu'on a oublié, qui ne figurait pas dans la paracha de la semaine dernière, et qui figure à la fin de notre paracha de cette semaine, c'est le Mizbeach HaZahav, c'est l'autel d'or qui lui se trouvait à l'intérieur, et qui était de dimension beaucoup plus petite, et donc, comme nous l'avons dit, en or, et qui servait lui à la combustion des kétorets des encens.
Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, parce qu'on a beaucoup de sujets.
Mais on pourra parler de tout, Jean. On est très libre dans cette émission, et on y reviendra l'année prochaine, si on peut.
Alors, il y a une question que je voulais poser. Au tout début de la paracha, on parle pas des sujets encore des habits, on parle de la menorah. Et alors, quand on lit le texte, il y a écrit « Pourquoi la menorah reste allumée du soir au matin ?» D'habitude, on dit du matin jusqu'au soir.
Non, la menorah devait la menorah devait brûler tout le temps. D'ailleurs, si vous lisez ce que nous dit Rashi, lorsqu'il nous dit tamid, donc de manière perpétuelle, Rashi nous dit kol laila ve laila karui tamid. Donc, il nous dit chaque nuit est appelée de manière permanente. Mais dans le Rashi suivant, qui nous parle justement, comme vous l'avez dit, Jean, de me'erev ad boker, qu'on nous dit qu'elle devait être allumée de la nuit jusqu'au matin, Rashi nous dit qu'il fallait faire en sorte, par rapport à la quantité d'huile que l'on plaçait dans cette menorah, qu'elle puisse brûler cette menorah. Mais Erev Ad Boker de la nuit jusqu'au matin. Et donc les Chachamim nous ont donné la quantité exacte d'huile à mettre à l'intérieur, à introduire à l'intérieur de cette menorah. Mais au-delà de cette quantité et au-delà de cette injonction, donc de prévoir finalement cette quantité de manière à ce que la menorah puisse brûler suffisamment longtemps, même s'il y avait aussi une dimension un peu miraculeuse dans tout cela, ce qui est intéressant, c'est l'introduction de cette mitzvah à ce moment-là. Parce que je l'ai dit, on a parlé des ustensiles la semaine dernière. Cette semaine, on va nous parler de la confection des habits. Et puis là, on a l'impression que ce sujet, alors je ne sais pas, est peut-être un sujet de transition entre la paracha de la semaine prochaine, la paracha de la semaine dernière et celle de cette semaine. Mais on est un peu surpris de nous voir parler ici de l'allumage de la menorah, alors qu'en plus, on va nous en parler de manière très détaillée aussi dans la paracha de Béalotra. Donc bien plus tard. Et au moment où on veut consoler un petit peu Aaron, hein, rappelez-vous Aaron qui n'a pas participé ni lui ni sa tribu à l'inauguration du Mishkan, et pour le consoler, eh bien, on va lui donner l'allumage de cette menorah, quelque chose de très fort, allumer de manière permanente la menorah, pas simplement participer à une inauguration une fois, mais être dans l'exercice d'une mission qui est une mission qui s'inscrit dans la durée, et être capable d'avoir la même exigence dans la durée, ça c'est quelque chose de très très fort, et je pense que ce passage-là, ici, de l'allumage de la menorah, il fait un petit peu la transition entre la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, parce que à partir du moment où on introduit les vêtements des Kohanim, et donc on introduit un petit peu la mission qui est celle des Kohanim, ce qu'on est en train de nous dire ici, Jean, c'est que exercer cette mission, c'est pas donné à n'importe qui. Aaron n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi parce qu'il a certaines qualités. Et parmi ces qualités, parmi ces qualités qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions, il y a une rigueur et une régularité dans sa manière d'être. Vous savez, on a tous, je le dis souvent, on a tous, et c'est pour ça que c'est beau la menorah. Parce que la menorah, ce sont des flammes, mais des flammes qui brûlaient tout le temps de la même manière. C'est cette menorah, et ça a été rappelé aussi ici par Rashi, les halot ner tamid, afin de faire monter la flamme de manière permanente, c'est donner la possibilité à cette flamme, lorsqu'on l'allume, de pouvoir monter d'elle-même, lui donner suffisamment finalement d'énergie, suffisamment de force, suffisamment d'impulsion pour qu'elle puisse après se développer par elle-même. Et Aaron, ça a toujours été ça finalement, son travail, ça a été non seulement d'avoir une régularité dans la manière dont il a éclairé, dans la manière dont il a illuminé, dans la manière dont il a été une source d'inspiration pour toutes les personnes qui se trouvaient autour de lui, mais c'est surtout par l'amour qu'il avait des autres, eh bien faire en sorte que toutes les personnes avec qui il était en contact, vous savez, c'est un peu comme un chamash, Jean. Le chamash, il est là, et avec ce chamash, eh bien, on va allumer d'autres lumières, d'autres flammes. Eh bien, Aaron, c'était un petit peu ça, c'était un chamash. Et à chaque fois qu'il rencontrait une autre personne, le contact qu'il avait avec cette autre personne et sa capacité à, je vous dis, à servir d'exemple, permettait à la personne qui était en face de pouvoir éclairer à son tour. Ça, c'est la grandeur d'Aaron, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on a choisi ce sujet-là ici pour nous faire un petit peu la transition. Il n'y a pas d'hasard. On n'a pas choisi les Kohanim en faisant Amstramgram ou Plouf Plouf. On a choisi les Kohanim parce qu'au niveau de leur midot, au niveau de leur qualité humaine, eh bien, ils s'inscrivaient totalement dans la mission qui était celle voulue par Akadosh Baruch Hu.
Alors, juste avant de parler de les habits du Kohen, est-ce qu'on peut rappeler qui était le Kohen? Le Kohen Gadol, c'était Aaron, et ses fils étaient Kohen Gadol aussi?
Oui, alors vous savez que cette mission, voilà, exactement, par lignée, alors on pourrait consacrer une émission à cela, il n'y a qu'un Kohen Gadol, hein, Jean, donc...
Non mais je veux dire... Ses enfants aussi, après, étaient...
Oui, tout à fait, exactement. Ça s'est un petit peu compliqué par la suite. On pourra consacrer, si vous voulez, un jour une émission pour savoir comment ça s'est passé après, par la suite, à l'époque du premier Beit HaMikdash, à l'époque du second temple, où là, les choses par rapport à la nomination du Kohen Gadol se faisaient de manière un petit peu différente. Hein. On a eu des époques un peu plus sombres, un peu plus troubles, où on achetait carrément parmi les Kohanim, on soudoyait presque son droit d'être Kohen Gadol. Ça n'a pas été les périodes les plus nobles de l'histoire du Klal Israël. Mais effectivement, au début, ça se transmettait de cette manière de génération en génération.
Alors, dans cette paracha, on énumère les différents habits du Kohen Gadol. On va parler de ce qu'on peut. Et on va commencer, et ça commence la paracha, par le Ephod. C'est comme ça qu'on dit ?
Le Ephod.
Voilà.
Ça a l'air de vous avoir marqué, voilà. Ce vêtement.
Non, alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on explique comment c'est construit. Et Rashi dit dans son commentaire qu'il compare ce vêtement à un vêtement que portaient les cavaliers. C'est un peu une casaque alors ?
Jean, je vois que vous êtes beaucoup dans les comparaisons. Non, alors l'Ephod déjà.
C'est Rashi qui compare.
Tout à fait. Alors soyons, vous avez raison. Soyons déjà assez méthodiques. Je pense que c'est important de le rappeler. Parmi les vêtements donc, qui concernaient les Kohanim, nous avions les vêtements spécifiques au Kohen Gadol, au grand prêtre, d'accord, qui se distinguaient des autres prêtres de par la fonction particulièrement importante qui était la sienne et la responsabilité qui était la sienne, et les vêtements qui étaient communs à l'ensemble des Kohanim, ce qu'on appelle un Kohen Idiot. D'accord ? Combien de vêtements, Jean, pour un Kohen Idiot ?
C'est une question que je voulais poser, mais...
Très bien. Non, parce que c'est pour introduire, avant de parler du Ephod, c'est bien de rappeler le nom d'habit. Il y avait quatre vêtements, d'accord ? Quatre vêtements pour le Kohen classique. Ces quatre vêtements étaient la kétonette. La kétonette était une tunique, tunique de lin, hein, une robe ou une tunique, mais la robe, c'est plutôt le meïl, hein, elle était particulière, c'était une robe qui était vêtue en plus par le Kohen Gadol, mais donc, tenons-en-nous pour l'instant aux vêtements du Kohen simple. Il y avait donc la tunique, il y avait Mikhnasayim, c'est-à-dire le pantalon, d'accord, une espèce de collant, de caleçon, qui était porté par l'ensemble des Kohanim. Il y avait le Avnet, donc qui était une ceinture, et il y avait bien sûr la Mikbat, c'est-à-dire le chapeau que portaient les Kohanim. Le Kohen Gadol, lui, avait quatre vêtements supplémentaires, donc il ne portait pas 4 vêtements, mais 8 vêtements. Et parmi ces 8 vêtements, il y a le éphod dont vous parlez. Donc il avait d'abord le méhil, en plus le méhil qui est une robe qui était de couleur bleu, techelet, avec des petites clochettes et grenades hein, qui étaient accrochées au pan de cette robe. Il y avait le éphod que vous avez évoqué, qui est donc une sorte de tablier, hein, une sorte de tablier qui se mettait autour de la taille, et donc avec des bretelles, hein, des bretelles auxquelles était accroché le choshen. Donc on a parlé du méhil pour le Kohen Gadol, la robe, le éphod, hein, cette espèce de tablier, c'est très difficile à traduire, il n'y a pas de traduction littérale du mot éphod. Le choshen, le pectoral, avec les 12 pierres sur lesquelles on va revenir, et un chapeau particulier hein, pour le mitznefet, pour le Kohen Gadol, sur lequel il y avait une plaque en or avec marqué Kodesh Lachem.
Les Kohanim, quand ils sortaient du Beth Amidash, ils s'habillaient normalement ou garder des habits particuliers.
Vous me demandez, est-ce que c'était comme au niveau de la préfecture? Est-ce qu'on pouvait... Alors le Cohen, oui, il y avait le Cohen, il était en civil aussi lorsqu'il
c'est
était...
C'est ça la question. Tout à fait, alors il s'habillait comment?
Parce que les vêtements avaient une certaine sainteté, une certaine gdoucha, donc on ne fait pas n'importe quoi avec ces vêtements. Et c'était vraiment un uniforme hein, qui servait en quelque sorte...
Donc on sortait...
Un peu à l'instar aujourd'hui d'un uniforme, les Avdil, hein, bien sûr, d'autres professions
donc, quand
qui mettent l'uniforme lorsqu'ils sont en fonction tout à fait officielle. Okay. Donc on pouvait croiser le Cohen en costume cravate.
Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le Roshven Mishpat. Et quand on lit la tradition, on nous parle du pectoral du jugement. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est quoi un pectoral de jugement? C'est quoi la différence?
Alors, le Roshven, vous le savez, il avait cette particularité d'avoir donc ces 12 pierres. Et c'est au niveau de ces 12 pierres qu'il y a... Alors, les 12 pierres, bien sûr, vous l'avez compris, avec la symbolique, bien sûr, des 12 tribus, puisque chaque pierre avait donc une pierre précieuse particulière, avec le nom d'une tribu sur ces pierres, en plus donc des deux autres pierres qui se trouvaient sur les bretelles du éphod et sur lesquelles étaient inscrits donc d'un côté 6 noms de tribus, de l'autre côté 6 noms de tribus, donc une présence très importante des tribus qui devait être... En réalité, vous avez compris la symbolique, toujours présente dans le cœur et à l'esprit du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, rappelons-le, n'est que le Télégueux.
Alors,
Mishpat, parce que, je ne sais pas si vous aviez prévu de parler des Ourim.
Oui.
Voilà, des Ourim Vetumim.
On va arriver dans tout de suite après.
Voilà, mais c'est donc, ce Roshen avait, alors, vous allez me dire rien de rationnel dans ce que je vais vous dire, mais il y avait donc par la force de ses habits et de ce Roshen, la capacité, et c'était un peu le travail aussi du Kohen, hein, le Gadol, c'est un représentant spirituel du peuple, il est là pour expier les fautes, il est là pas, notamment, je pense à Yom Kippour, mais pas simplement à Yom Kippour, tous les jours, Yom Kippour c'est là où cette mission s'exprimait de la manière la plus forte, parce qu'il y avait un service particulier, qu'il rentrait même une fois l'an dans le Kodesh à Kodashim, mais il portait en quelque sorte les fautes de l'ensemble du Am Israël, du peuple, avec le devoir de les expier. Or, c'est par ce Roshen, c'est par cet habit qu'on pouvait expier les fautes du clan Israël. Mais le Roshen Mishpat, à mon sens, l'explication la plus tangible, par rapport à ce que vous posiez, c'est vraiment ce système qui permettait tout simplement de savoir ce qu'il fallait faire, de savoir comment agir, qui donnait des instructions particulières. Ah. Et c'est en cela que l'on appliquait la justice avec un code de pierre allumée qui permettait au Kohen Gadol d'avoir des réponses par rapport à des questions particulièrement techniques.
Avant de parler des Ourim et Bithumim, je vous pose une question sur les Korbanot et sur le rôle du Kohen Gadol. Est-ce que les corbanates sont offerts uniquement en expiation des fautes du peuple? Est-ce qu'il n'y avait que ça?
Alors, vous le savez, on aura largement le temps de revenir sur les corbanotes dans tout le Sefer de Vaikra, dans le Lévitique. Vous savez qu'il y a parmi les corbanotes, qui sont très nombreux, de différents types de corbanotes, il y avait des sacrifices qui étaient là pour marquer sa reconnaissance à Kadosh Baruch ou à Dieu, par exemple. Des sacrifices qui arrivaient à la fin d'une période, par exemple le sacrifice du Nazir, qui à la fin de sa période de Naziréa apportait un sacrifice. Donc, c'était pas fort. Alors, oui, certains vous expliqueront que le sacrifice apporté à la fin de la période du Naziréa, c'est parce qu'il y avait une forme de faute finalement dans les concessions et qui auquel il devait s'adonner en prenant sur lui donc voilà c'est une certaine exigence mais lorsque vous parlez par exemple du du Korban Toda, qui est un sacrifice de remerciement, pas forcément de dimension de faute. Il y a la volonté d'apporter quelque chose, tout simplement, pour remercier Kadosh Baruch Hu. Il y a des korbanot, des fêtes, qui n'étaient pas forcément pour expier des fautes, qui étaient des korbanot, qui étaient là, tout simplement, pour répondre à des circonstances particulières. Et tout simplement, toujours, hein, rappelez-vous que dans korbanot, dans le mot korban, rappelez-vous qu'il y a la racine karev. La racine karev, c'est se rapprocher. L'objectif d'un sacrifice, c'est de se rapprocher de Dieu. Soit se rapprocher de Dieu parce qu'il y a eu un éloignement qui est consécutif à une faute. Faute crée un éloignement, dit éloignement avec Akadosh Baruch Hu et nécessité de créer un rapprochement. Soit tout simplement parce que je souhaite à un moment donné dans ma vie, pas nécessairement parce qu'il y a une faute, mais tout simplement parce que j'en ressens le besoin, je souhaite me rapprocher de Dieu. J'ai besoin de le remercier parce que je sens que j'ai été le bénéficiaire de quelque chose de grand. J'ai envie de lui dire merci. J'ai envie j'ai tout simplement le devoir d'apporter un korban à certains moments de fête qui sont des moments de rencontre et des moments de prise de conscience par rapport à des grands moments de l'histoire. J'apporte un korban.
Alors, il y a quelque chose de très, très intéressant dans cette paracha, c'est les Urim Vetumim. Alors, je ne sais pas comment on l'explique, il y a beaucoup de commentaires dessus, chacun y va de son explication, on donne des exemples, on dit que ça peut être bien, ça peut être pas être bien. Moi, j'ai besoin de savoir ce que c'est exactement, c'est Urim et Thummim, et qu'est-ce que ça signifie, quel était leur rôle.
Alors, c'est très très compliqué, on va essayer d'être le plus clair possible. Vous savez que la manière dont était faite le Choshen, donc c'était des plaques, une plaque qui était pliée en deux, donc nous l'avons rappelé avec donc des différentes pierres, hein, qui étaient incrustées sur ce Choshen, sur ce pectoral, et il y avait donc à l'intérieur, c'est ce que Moshe devait faire, insérer un parchemin avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom ineffable. Et voilà, donc vous comprenez qu'il y avait quelque chose d'une doucha, une sainteté vraiment tout à fait particulière à l'intérieur de ce Urim Vetumim. Et tout simplement, ce Urim Vetumim, donc qui, dans sa racine, hein, dans la racine même de ce mot, le mot Urim, ça vient de Or, le mot Tumim, ça vient de Tamim. Donc Tamim, c'est l'intégrité, donc il y a une certaine forme d'authenticité, d'intégrité, de vérité qui s'exprime sur Urim et Tumim. Or, c'est les lumières, et par un système donc de lumière finalement qui s'allumait dans ce Urim et Tumim, le Kohen Gadol avait la possibilité de poser des questions et d'obtenir, donc qui étaient en réalité des questions qui étaient posées directement à Kadosh Baruch Hu, hein. C'était un moyen de communication finalement avec Dieu, qui de manière donc assez miraculeuse, par le clignotement et l'allumage de ces lumières, donnait la possibilité au Kohen Gadol, tout simplement, d'obtenir des réponses par rapport aux grandes questions qui pouvaient être posées. Et c'était des questions décisives, hein, des questions, Jean, qu'il faut bien imaginer, là, souvent décisives pour l'avenir du Klal Israël.
Quand vous me parlez de ça, excusez-moi... c'est un peu de la magie, non ?
Alors, c'est pas de la magie, parce que de la magie, c'est lorsqu'on s'en remet à d'autres, à des divinités complètement factices. Là, il s'agit d'un moyen de communication qui a été donc voulu de cette manière avec Akadosh Baruch Hu, qui n'était pas donné au commun des mortels. Hein. Il fallait avoir, comme on l'a dit, une certaine intégrité. Le Urim Vetumim, il faut bien comprendre qu'il ne peut fonctionner que chez quelqu'un qui lui-même est une personne qui porte en lui des valeurs d'intégrité. Mmh. Or, c'était ça le propre ici du Kohen Gadol. C'était quelqu'un qui était profondément intègre. Et ce n'est que comme cela, et ce n'est que de cette manière que ce Urim Vetumim pouvait fonctionner. Il ne pouvait fonctionner qu'en étant posé sur une personne qui elle-même portait ses valeurs d'intégrité, qui elle-même était un vecteur de lumière. Le Kohen Gadol était un vecteur de lumière. Il ne se contentait pas d'allumer la menorah, il ne se contentait pas simplement d'être un technicien, hein, un petit peu comme vous avez des techniciens simplement lorsque vous allez chez le radiologue, qui vont vous faire les manipulations, qui vont poser les plaques, qui vont... Non. Le Kohen Gadol, c'est quelqu'un qui lui-même, au niveau de ses valeurs déjà, était un réceptacle finalement à cette parole d'Akadosh Baruch Hu, et qui lui donnait donc la possibilité de cette manière de recevoir cette parole. Et c'est très symbolique, hein, que ces réponses se faisaient au travers des différentes lumières qui étaient symbolisées par les 12 tribus. Ouais. Ça implique aussi un petit peu dans ces réponses et dans ce projet les différents Shvatim, les différentes tribus.
Voilà, cette émission touche à sa fin. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout parler, des chérubins, etc., etc. On en parlera plus tard.
J'espère qu'on gardera une émission, peut-être l'année prochaine, l'année d'après, pour parler. Souvent, on commence par le début, on n'arrive pas là, jusqu'à la fin de la paracha, pour parler du Mizbeach HaZahav et se demander mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette paracha. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas parlé du Mizbeach HaZahav dans la paracha de la semaine dernière.
La prochaine fois, si Dieu veut. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous prenez une semaine de vacances.
Je penserai très très fort à vous.
Oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais on va pas vous demander où et comment. Donc, bonnes vacances à vous. L'émission, quant à elle, ne prend pas de vacances. On se retrouve la semaine prochaine. Et je serai avec le rabbin Madel Samama qui fera aussi pour nous le commentaire de la paracha de la semaine. Merci à vous. Shabbat Shalom. Merci à la technique. Et bonne semaine à vous.